Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce deuxième épisode du hors-série Chakra et entrepreneuriat. Tu es toujours sur le podcast de Bien dans ta boîte, mais si tu n'as pas suivi le premier épisode, sache que je vais sortir 8 épisodes hors série qui sont dans une continuité que j'ai appelée donc Chakra et entrepreneuriat. Donc si tu n'as pas suivi le premier, je t'invite quand même à aller l'écouter. Tu peux le retrouver sur SoundCloud, sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Sinon, comme d'habitude, tu retrouveras tout sur le site de biendantaboite.fr. Parce que dans le premier épisode, je t'explique déjà pourquoi ce hors-série. Et ensuite, on pose les bases de que sont les chakras, combien il y en a, où se trouvent-ils, etc. Donc, sans plus trop tarder, je vais attaquer le premier épisode et donc avec le premier chakra. Donc, comme je t'avais dit, on va se concentrer sur les 7 chakras principaux et donc on aura un épisode par chakra, plus celui d'introduction, ça en fera 8. Donc, celui-ci est le premier et on va commencer par le chakra racine, le premier chakra. Alors, pourquoi on commence par celui-là? C'est vrai que par tradition, entre guillemets, on considère qu'il est le premier chakra et donc on démarre tout le temps par lui. Alors, tu peux le voir pour des raisons entre guillemets anatomiques. Si tu te rappelles de ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est celui qui est tout en bas de la colonne vertébrale, puisque ces 7 chakras principaux se répartissent verticalement de bas en haut sur la colonne vertébrale, à peu près, le long de la colonne vertébrale tout du moins. Et donc on peut effectivement commencer par lui parce qu'il est à la base. Mais en fait on va surtout commencer par lui parce que tout va reposer sur lui. Par définition, s'il est à la base de la colonne vertébrale, c'est parce que c'est le chakra de base. Voilà, c'est vraiment le chakra sur lequel on va pouvoir créer tout le reste, on va pouvoir faire toute l'architecture, entre guillemets, sur les fondements. Donc, sans surprise, tu l'as peut-être compris aussi dans son intitulé, si je puis dire, c'est le chakra racine, c'est vraiment celui de l'enracinement, de l'ancrage, de la solidité, voilà, c'est vraiment comme si on construisait une maison, et ben là tu es vraiment sur les fondations de la maison. Donc voilà pourquoi on attaque par ce chakra, le chakra racine que l'on prononce en sanskrit, Muladhara Chakra. Donc pour t'en faire une petite carte d'identité entre guillemets rapide, ce chakra donc on appelle Muladhara Chakra et qui vient de Mula qui signifie racine ou enracinement, et Dhara qui signifie soutien. Donc Muladhara significativement c'est le soutien à la racine, mais en tout cas tu comprends cette idée vraiment de soutien, d'enracinement, d'ancrage. C'est le chakra qui nous relie à la terre et c'est celui des fondations. Comme je t'avais dit donc dans le premier épisode, il se situe tout en bas à la base de la colonne vertébrale, grosso modo au niveau du plexus coccygien. Lui il a vraiment pour but de t'ancrer dans la terre. Il te permet de t'incarner. Et donc, selon les textes, on va retrouver les chakras en fait liés à des éléments. Donc là, si tu veux le lier à un élément, ça sera celui de l'élément terre. C'est vraiment le chakra de l'identité physique. Et ensuite, dans toutes les choses qui peuvent être liées au chakra, j'ai décidé de te présenter certains éléments pour pas que ces épisodes durent non plus 45 minutes, parce que pour chaque chakra, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc je te présenterai la couleur des chakras, c'est très important. La syllabe qui est associée à ce chakra, si jamais tu veux te renseigner sur tout ce qui est chant de mantra, etc. Le verbe qui est associé, parce que ça va pouvoir te donner une espèce de clé de compréhension assez rapide. Et après, on rentrera plus dans le détail. Donc, pour ce chakra racine, sa couleur, c'est le rouge. La syllabe qui est rattachée, c'est la syllabe lame, qui s'écrit L-A-M, mais qui se prononce comme si tu mettais un E à la fin, lame. Et enfin, son verbe, c'est « avoir ». C'est le chakra de l'ancrage, de l'enracinement, mais c'est donc aussi celui de la sécurité. Ça va être celui, en fait, des besoins fondamentaux. De toute façon, n'oublie pas, comme je te le dis, c'est le chakra de base, au sens où, si lui, il n'est pas d'aplomb, entre guillemets, on va construire quelque chose d'un peu bancal, comme une maison. Si tes fondations ne sont pas hyper stables, eh ben, ce que tu vas construire dessus, ça peut tenir, mais ça ne sera pas forcément très stable. Donc celui-ci est vraiment... va vraiment concerner tout ce qui est besoin de survie, tout ce qui est besoin fondamentaux, ça va être ton sentiment de sécurité, d'incarnation, d'ancrage et de stabilité. Donc du coup, de par ses fonctions, entre guillemets, et de par son emplacement, c'est vraiment le chakra qui va régir le bas du corps. Donc en particulier, évidemment, les membres inférieurs, donc les articulations des jambes, les genoux, les chevilles, etc., les pieds, les jambes en tant que telles, mais également le bassin. Et d'une manière générale, on va le retrouver en fait sur les intestins et les os en général. Donc on est vraiment sur un chakra qui est tourné vers l'instinct de conservation. C'est celui qui est lié à ton identité physique. Mais c'est pas pour autant que ce chakra n'a aucune implication entre guillemets spirituelle. Parce que bien entendu, toute cette culture yogi qui est tournée vers la spiritualité, et c'est vrai que ce chakra peut nous donner l'impression de pas servir à grand chose en fait dans la connaissance de soi, dans la connaissance spirituelle, dans notre cheminement du yoga ou d'autres choses. Alors c'est vrai que ça peut paraître un paradoxe, mais en fait, il faut sortir un peu de la doctrine matérialiste qui sépare le matériel, le physique, du spirituel. C'est vrai que ce chakra est très orienté vers l'identité physique et les besoins fondamentaux. Il n'en reste pas moins nécessaire à la spiritualité, parce qu'il faudra d'abord s'ancrer, s'enraciner, être solide sur ses appuis, si je puis dire ça comme ça, pour qu'après, d'une, l'énergie puisse remonter dans les autres chakras, et de deux, en fait, pour que ton niveau de conscience puisse s'élargir et s'éveiller, il faut déjà bien entendu que ce chakra soit stable. Concrètement, si ce chakra est déséquilibré, on va avoir des personnes qui vont se sentir plutôt en insécurité. Si tu es au quotidien préoccupé par ta sécurité, par ta survie, parce que tu ne sais pas si tu pourras nourrir tes enfants demain, parce que tu n'es pas sûr d'avoir l'argent nécessaire à la fin du mois pour payer tes charges, etc., etc., nécessairement, tu vas pas être très préoccupé par ta spiritualité, parce que évidemment que l'urgence à ce moment-là pour toi, c'est de trouver des solutions pour ta survie et pour tes besoins fondamentaux. Donc, si c'est quand même un chakra important pour ta spiritualité, au sens où il sera nécessaire d'abord de s'ancrer, de se solidifier, pour pouvoir après s'élever, entre guillemets, au sens de monter vers les chakras du haut et élargir la conscience. Encore une fois, sur ce paradoxe, je trouve que Anodea Judith l'explique très bien dans son bouquin. Donc c'est un bouquin qui m'a aidé à construire ce podcast. Donc tu le retrouves, le lien, si tu veux, le bouquin, dans la description du podcast, soit dessous si tu es sur une plateforme d'écoute, soit dans l'article de blog associé situé sur mon site. Et elle explique assez bien ce paradoxe-là. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, les épisodes là que je te prépare, ils sont faits avec ce bouquin, mais ils sont faits aussi par mes cours, ils sont faits par ce que j'ai pu apprendre au cours des dernières années sur les chakras, des informations que j'ai recoupées de différentes sources. Et j'ai pas trouvé grand chose là-dessus, à part justement dans le livre d'Anodea Judith, j'espère que je prononce bien son nom, voilà, où elle parle justement de ce paradoxe du chakra racine, matériel, physique, qui peut nous paraître contre-intuitif avec la partie spirituelle. Donc je trouve que c'est quelque chose d'une de très important et de deux de surcroît encore plus importante parce que depuis des années que j'étudie ça, c'est la première fois que je lis quelque chose sur ce paradoxe, donc c'est à mon avis quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Alors concrètement, ce chakra racine, c'est le premier dont on parle, c'est le premier de la colonne vertébrale, c'est aussi le premier à se développer. Donc dans son bouquin justement, Anodea explique que la période de développement de ce chakra va de la vie utérine jusqu'à environ 12 mois. Et donc effectivement, c'est un chakra qui va être très sensible à cette vie de nourrisson. Et évidemment, tu le sais, dans cette période-là de ta vie, tu es extrêmement dépendant, bien sûr, ou dépendante du contexte environnant. Et donc, c'est ici aussi que va se jouer la question de la sécurité, etc. Et donc, ce chakra va être très sensible à ce qu'elle, elle appelle un démon. Alors moi, de toutes mes lectures, j'avais jamais vu le mot démon. Mais peu importe, tu vas comprendre, ce chakra est très sensible à la peur. Donc, bon, peur que tu peux appeler démon, que tu peux appeler danger ou je ne sais quoi pour ce chakra. Et ce qui est assez intéressant pour la petite anecdote, c'est que j'aime bien en fait faire des ponts entre les chakras et mon apprentissage en médecine chinoise. Et par exemple, en médecine chinoise, ce sont les reins qui sont liés à la peur. Enfin, le rein, on dit en médecine chinoise, qui est lié à la peur. Donc c'est quand même intéressant, tu vois, physiquement, on peut quand même refaire des liens. Voilà, les reins n'étant évidemment pas très loin de ce chakra racine. Alors concrètement, tu te rappelles, dans le premier épisode, je t'ai parlé qu'un chakra, il était équilibré ou qu'il pouvait être en déficience, entre guillemets, ou en excès. Donc à quoi ça ressemble un chakra racine équilibré ? Eh bien tout simplement, on va avoir une personne qui se sent en sécurité, une personne qui est vraiment ancrée sur terre, qui a une base secure, comme on dit en psycho, une base de sécurité qui est stable, sur laquelle elle sait qu'elle peut s'appuyer, sur laquelle elle va pas enfin voilà, cette base ne va pas vaciller au premier problème. Donc c'est vraiment une personne qui se sent en sécurité, qui se sent soutenue, on te rappelle, le soutien à la racine, et surtout qui a conscience de sa place dans le monde. Alors ça, on va le retrouver après dans différents autres chakras, mais ici, c'est vraiment la question de l'incarnation plus que des valeurs, etc. Mais ça va être vraiment la question de l'incarnation. Alors, à l'inverse, à quoi ressemble un chakra racine qui est déséquilibré ? Donc pour ça, je ne vais pas m'appuyer pour le coup sur le bouquin d'Anodea Judith, mais de la manière dont moi, j'ai construit mes fiches, entre guillemets. Donc, te le différencier, un chakra racine déséquilibré, qu'est-ce que ça donne dans la tête ? Qu'est-ce que ça donne dans le corps ? Pourquoi est-ce qu'il est déséquilibré ? Et comment on fait pour le rééquilibrer ? Après, je te ferai un tout petit mot sur la peur qui est très liée à ce chakra, et après, justement, sur les liens avec ton entrepreneuriat. Donc, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce chakra racine, comme tous les autres, il peut se déséquilibrer en excès ou en déficience. En quel cas, ça va être dû à des stratégies d'évitement ou de surcompensation que tu vas répéter, et qui va finir par déséquilibrer les énergies dans ce chakra. Qu'est-ce que ça donne un chakra racine déséquilibré dans la tête ? Donc là, on va avoir une personne qui va, donc par définition, manquer d'ancrage et qui va se sentir plutôt en insécurité. Typiquement, c'est la personne qui a toujours peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de nourriture, peur de manquer d'amour, etc. Donc là, tu vois déjà un premier lien très clair avec l'entrepreneuriat. C'est typiquement l'entrepreneur qui a toujours peur de manquer d'argent, qui a peur de manquer de clients, qui a peur que ça ne fonctionne pas, qui a peur. C'est également quelqu'un qui peut avoir peur du changement, qui peut avoir peur de l'abandon. Donc du coup, c'est une personne qu'on peut retrouver un peu déprimée, fatiguée, qui va perdre de l'intérêt pour beaucoup de choses parce qu'en fait, elle devient obsédée par sa survie matérielle. Et donc effectivement, ce qu'on peut observer, c'est une personne qui va du coup accumuler énormément de choses matérielles pour se réconforter, pour se sécuriser. Éventuellement, on peut trouver une personne qui va avoir tendance à se tourner vers des addictions comme le tabac, comme l'alcool, comme la nourriture, comme le sport. C'est une personne qui peut, un peu malgré elle, se montrer parfois égoïste, voire agressive, mais parce qu'en fait, elle s'inquiète pour sa propre survie. Et forcément, quand on s'inquiète pour sa survie, ça devient obsessionnel, ça devient prioritaire surtout, puisqu'évidemment, ton cerveau, ton corps, tout tourne autour de cette survie, puisqu'évidemment, il faut te maintenir en vie, ça tombe sous le sens. Donc c'est une personne qui va percevoir le monde menaçant, et qui donc va ressentir toujours énormément de peur. C'est une personne éventuellement qui peut se retrouver en grande difficulté pour faire des choix, qui va avoir du mal à trouver sa voie, puisque comme je te l'ai dit, c'est un chakra qui est lié à l'ancrage, à l'incarnation, à ta place dans le monde. Donc effectivement, quand il est déséquilibré, ben des fois ça peut se matérialiser chez des personnes qui ne savent jamais trop où est leur place, qui ont du mal à trouver leur voie, etc. C'est pas tant lié à la question de la prise de décision qui sera plus liée au troisième chakra en revanche. Et après, dans le corps, comment ça se manifeste ? Alors, tu vas retrouver toutes les problématiques liées à l'ancrage, c'est-à-dire donc énormément aux membres inférieurs, puisque bah, par définition, ce sont eux qui te relient à la terre. Donc, tous les problèmes qui vont être articulatoires, notamment au niveau des genoux, des chevilles, des douleurs, des problèmes de bassin. Ça arrive souvent, un bassin qui est un peu trop mobile ou une absence de vie, entre guillemets, dans le bassin, dans les membres inférieurs. Alors ça, concrètement, comment tu le perçois ? Alors, un ostéopathe ou une ostéopathe peut te le percevoir assez vite en mettant les deux mains sur le bassin et qui sent qu'il n'y a rien qui se passe. Mais d'un point de vue plus concret, tu peux essayer de faire, quand tu respires, grande inspiration abdominale, thoracique. Généralement, quand ce chakra racine est très déséquilibré et que ça a coupé les énergies dans le bassin et dans les membres inférieurs, la personne va avoir énormément de mal à inspirer bas dans le ventre, voire même dans le périnée en fait. Donc c'est une personne qui va avoir plus ou moins de facilité à respirer en abdominal, beaucoup de facilité à respirer en thoracique, mais alors par contre, tout ce qui va être respiration vraiment dans le bas du ventre et dans le périnée, ça va être très compliqué pour elle, parce qu'en fait, il n'y a plus d'énergie qui passe là-bas dessous, quoi. Éventuellement, ça peut se manifester par des problèmes circulatoires dans les jambes, ça peut se manifester par des problèmes de constipation, et ça peut se manifester par des problèmes de surpoids. Ça, c'est assez typique dans ce chakra, puisque la personne va avoir tendance souvent à manger beaucoup pour calmer ce sentiment d'insécurité. Donc effectivement, on peut retrouver des problématiques de surpoids. Alors, à l'inverse, en tout cas, Anodea Judith, elle précise dans son livre que si ce chakra est en déficience, on va plutôt retrouver des phénomènes de sous-poids avec des personnes qui vont avoir énormément de mal à prendre du poids. Autre chose d'important que j'ai trouvé dans son bouquin, c'est la question par rapport à ce chakra des structures. Donc des personnes qui vont être extrêmement attachées aux structures, surtout quand ce chakra est en excès, et à l'inverse des personnes qui vont être extrêmement résistantes aux structures quand ce chakra est en déficience. Alors quand je dis structure, une structure ça peut être la famille, ça peut être l'école, etc. Mais je pense que ça valait le coup de le préciser parce que dans les liens avec l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a vraiment un lien. Parce qu'évidemment dans l'entrepreneuriat il y a une forte notion de liberté. Et je crois que on peut se poser la question pour certains d'entre vous si ça vous parle, de est-ce que fondamentalement je tiens ma liberté? Ou est-ce qu'en fait je suis très résistante ou très résistant aux structures? Et donc peut-être que ça peut venir témoigner ici d'un petit déséquilibre au niveau de ce chakra racine. Donc le but n'est pas de tomber non plus dans l'excès et d'être absolument dépendant de ces structures, mais plus de se dire en fait, la structure, un peu comme un tuteur pour une plante, elle ne m'empêche pas ma liberté, mais par contre elle me soutient, elle me guide et elle m'aide en fait. Alors si tu as l'impression de te retrouver dans le cas d'un chakra racine déséquilibré, à quoi c'est dû? Donc comme je te disais, c'est dû à la répétition. C'est pas un jour, t'as eu une blessure émotionnelle et puis paf, c'est fini, c'est pas de chance, tant pis pour toi. C'est vraiment le sentiment répété d'insécurité. Bon, il y a plein de choses dans ta vie qui ont pu générer ça, peut-être que tu as manqué quand tu étais enfant, mais ça, plein de personnes qui ne vont pas manquer d'argent, qui ne vont pas manquer de nourriture, peuvent avoir un chakra racine déséquilibré. Ça peut être des déménagements, ça peut être des ruptures, ça peut être effectivement que tu as eu peur pour ta survie, pour ta santé, pour ta survie matérielle, pour ta survie financière. Mais voilà, ça va être vraiment ce sentiment d'insécurité, c'est la peur, encore une fois, qui va affaiblir ce chakra. Alors bien entendu, il peut aussi se déséquilibrer suite à une immense fatigue ou à un choc qui a été violent. C'est vrai qu'il est quand même assez lié à l'enfance de par la période de développement qu'est la sienne. Et éventuellement, ça peut se manifester aussi chez des personnes qui vont avoir du mal à assumer leurs responsabilités, qui vont être un peu en psycho, on appelle ça la causalité externe, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'en fait, c'est le monde qui ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin et qui vont du coup avoir du mal à prendre leurs responsabilités sur ce dont ils ont besoin et comment ils peuvent aller le chercher. Alors, comment on fait pour le rééquilibrer, ce chakra racine? Tout ce qui va te reconnecter à la terre de près ou de loin va t'aider. Alors, typiquement, le jardinage, une bonne marche en nature, pieds nus si possible. Ici, le but, c'est pas juste de marcher dans l'herbe, hein, mais c'est aussi de porter en fait ton attention sur ton poids, sur le sol, sur... Alors, quand je dis sur ton poids, c'est pas sur ton apparence physique, mais sur la sensation que fait ton poids sur ton pied quand tu touches le sol. Vraiment pour focaliser en fait ton attention sur l'ancrage, sur l'enracinement et tout ce qui va te reconnecter à tes racines. Alors quand je dis à tes racines, moi par exemple, je sais qu'une activité qui va énormément m'aider à m'ancrer, c'est d'aller au cheval parce que c'est mes racines, c'est la grande passion de ma vie, c'est là que j'ai grandi, c'est là que je me sens chez moi. Donc à chaque fois que je suis là-bas, forcément j'ai un très fort sentiment d'enracinement, d'ancrage parce que je suis à la maison en fait. Bien sûr, tous les exercices de méditation, où tu vas plutôt donc te focaliser sur ce chakra. D'ailleurs, dans mon dernier programme en ligne, donc 15 jours pour t'initier à la pleine conscience, il y a une séance spécifique sur l'ancrage qui est à moitié pleine conscience, à moitié visualisation, et qui justement favorise ce sentiment d'ancrage et d'enracinement. Bon, je ne t'en dis pas plus pour garder la surprise de la séance si tu veux la faire, mais voilà, typiquement ce genre d'exercice où on va se focaliser sur l'ancrage, sur l'enracinement, sur la stabilité, sur la sécurité, etc. Alors évidemment, des postures de yoga. Déjà, la première que tu peux faire, c'est la posture debout. Donc Tadasana, la posture de la montagne, si tu veux regarder sur internet ou quoi que ce soit, qui est déjà une posture par définition d'ancrage. Mais là encore, il ne s'agit pas juste de faire la posture, il s'agit dans la posture de porter ton attention, de focaliser ton attention sur ce sentiment d'ancrage et d'enracinement. Une posture qui est très bien, c'est la posture Malasana, la posture de la guirlande. La posture Utkatasana, la posture de la chaise. Une qui est très très bien pour l'enracinement, c'est la posture de la pince assise Paschimottasana. Et enfin, la posture de l'arbre. Bon, on pourrait en trouver plus, mais déjà, avec celle-ci, il y a déjà de quoi faire. Éventuellement, si tu t'intéresses à tout ce qui est pierre et lithothérapie, et ça sera toutes les pierres de couleur rouge, avec principalement la jaspe rouge et le rubis. Alors, je fais un point rapide sur la peur. Ce que tu as compris, c'est extrêmement lié à ce chakra. La peur de manquer, le sentiment d'insécurité, tout ça va évidemment léser, entre guillemets, les énergies de ce chakra. Et donc peuvent mener à une espèce de coupure, entre guillemets, des membres inférieurs et du bassin. Puisqu'en fait, tout simplement, cette peur va venir figer le corps physique et tu vas te retrouver figé, piégé, entre guillemets, dans ce corps physique. Donc on va retrouver beaucoup de problématiques, comme je disais, qui sont liées aux jambes, aux membres inférieurs, aux articulations, au bassin. Donc évidemment, pour travailler cette peur, il va vraiment être question d'une, de les affronter, et de deux, de faire un travail de fond, donc tout ce que je t'ai conseillé pour rééquilibrer le chakra. Mais ici, je pense que ça vaut le coup aussi de travailler aussi côté psy. Alors moi, voilà, je suis côté psy positive, mais peu importe le champ de discipline qui va te plaire, mais pour aussi s'intéresser aux croyances, en fait, qui sont derrière, c'est-à-dire comment j'ai tricoté le problème dans ma tête. Moi, je dis toujours ça à mes coachés, comment vous avez tricoté le problème dans votre tête pour que ton schéma de pensée arrive à la conclusion de dire « Ouh là là, je suis en danger, je vais pas avoir assez d'argent, je vais pas avoir assez de clients, ça va pas marcher, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, etc. » Donc, ce qui m'amène à la dernière partie des liens avec ton entrepreneuriat. De ce que je peux observer en consultation, en coaching et de par tout ce que je viens de te raconter, pour moi, tu vas retrouver des liens évidents de ce chakra avec l'entrepreneuriat. Déjà, ce chakra, il est hyper important dans l'entrepreneuriat. Au même titre qu'il est important dans ta vie, puisque ce sont les bases sur lesquelles tu vas fonder le reste, et bien dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si ce chakra est déséquilibré, il va te poser plein de problèmes dans ta boîte, puisqu'évidemment, tu vas être en insécurité tout le temps, tu auras toujours peur de manquer de quelque chose, tu vas éventuellement te focaliser tout le temps sur ce qui te manque ou sur ce dont tu as peur de manquer. Et donc ça, bah, évidemment, psychologiquement, on sait très bien que plus tu vas te focaliser sur ce qui te manque, moins tu as de chances que ça débarque dans ta vie, par définition. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté le podcast que j'avais fait avec Arnaud, qui est prof aussi de yoga et entrepreneur. Je te remettrai le lien dans la description. Et il me racontait une anecdote que je trouve parfaitement incarnée, ce truc-là, où un jour, il rencontre un entrepreneur qu'il admire beaucoup. Et Arnaud lui demande, mais enfin, comment tu fais pour gagner autant d'argent ? Et l'entrepreneur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi, Arnaud, dans ta vie ? Et Arnaud lui dit, bah, je veux de l'argent. Et le gars lui dit, répète-moi ça, je veux de l'argent. Il lui dit, bah, c'est très bien, et bah, tu vas continuer de le vouloir. Et cette phrase qui a marqué Arnaud et qui m'a marqué quand il me l'a partagée, je trouve incarne très bien ce truc-là. C'est-à-dire, tu veux de l'argent, et bah, très bien, tu vas continuer de le vouloir. C'est-à-dire que si tu dis, je veux de l'argent, c'est-à-dire je manque d'argent et j'en voudrais plus, en fait, tu es en train de te focaliser sur le fait que tu n'en as pas aujourd'hui. Et donc, eh ben, plus tu vas te focaliser sur le fait que tu n'en as pas, moins tu vas en avoir. Et ben, avec le chakra racine, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que ce sentiment d'insécurité, tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de manquer de clients, tu as peur que ton entreprise ne tourne pas, tu as peur de tout, fait que tu es focalisé sur ton manque d'argent, ton manque de clients, tes échecs, etc. Et donc ça, déjà, c'est évidemment extrêmement pénible pour toi, mais ça, tu le sais mieux que moi, parce que c'est toi qui le vis. Et en plus, tu vas reboucler sur ces schémas-là, en fait, parce que du coup, bah, tu es bloqué dans cette vision-là et tu la répètes et tu la répètes et tu la répètes. Donc, ce chakra, très important dans l'entrepreneuriat. Déjà, et bah, pour poser les bases solides, à la fois de ton projet et à la fois tes bases à toi, en fait, pour que ce projet t'épanouisse, pour que tu te sentes bien dedans et pour que, bien entendu, il soit rentable sur tous les plans. Et rentable, ce n'est pas que financièrement, bien entendu. Je pense qu'il y a un lien très clair avec beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont liées à l'argent. C'est quelque chose, évidemment, que je retrouve souvent chez les entrepreneurs et que je retrouve donc souvent en coaching. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer de clients, etc. Donc pour moi, là, très clairement, il y a quelque chose à faire autour de ce chakra. Alors, on est bien d'accord, je t'ai pas dit de de t'en foutre complètement et de pas t'en préoccuper, mais j'imagine que tu connais autour de toi un ou plusieurs entrepreneurs qui ont possiblement le même business model que toi, qui sont pas forcément plus avancés, qui sont pas forcément plus intelligents, forcément plus géniaux que toi, et qui pour autant ne s'angoissent pas autant de l'argent ou ne s'angoissent pas autant d'avoir des clients. Et tu constateras que souvent, ils ont moins de difficultés que toi, parce qu'encore une fois, ils vont être moins focalisés sur cette problématique-là, en fait. Et dernière chose, à mon avis, on peut faire le lien, c'est au niveau donc des structures. Tu sais, je t'en parlais au début, Anodea, Judith, elle parle de ça dans son bouquin, et je trouve ça très intéressant vis-à-vis de l'entrepreneuriat, du fait que ce chakra va être aussi en lien avec notre ressenti, entre guillemets, vis-à-vis des structures. Donc des personnes qui peuvent être équilibrées, mais S'il est déséquilibré, des personnes qui vont être extrêmement dépendantes des structures et à l'inverse, des personnes qui ne les supportent pas. Je pense que dans l'entrepreneuriat, tu peux trouver les deux. Peut-être qu'on va avoir plus tendance à trouver des personnes un peu réfractaires aux structures. C'est mon cas, typiquement. Je le suis moins qu'avant, mais c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à me dire « Je veux pas de structure, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. » Oui, bon, ok, tu veux être libre, mais la voie du milieu, quoi. C'est-à-dire que il te faut quand même un minimum de structure pour tout, en fait, pour monter ta boîte, pour que ton couple soit périn, pour que ta vie de famille, pour que je ne sais quoi, ton projet quelconque, associatif, sportif, culturel ou je ne sais quoi. Un sportif de haut niveau, il a besoin d'une structure, il a besoin d'un entraînement, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un coach, etc. Ta boîte, elle a besoin un minimum d'une structure. On a besoin d'un plan d'action, on a besoin d'une stratégie. Voilà. Donc évidemment, des formations de coach, je suis très attachée à tout ce qui est plan d'action, objectif, etc. Mais il y a des personnes qui vont être réfractaires à ça et à l'inverse, je rencontre des personnes qui vont être extrêmement dépendantes de ça et c'est pas bon non plus. En médecine chinoise, on dit « Rien n'est bon, rien n'est mauvais, il n'y a que des excès. » Et je crois que cette citation peut tout à fait s'appliquer à la question des chakras. Je ne te conseille pas d'être hyper accro à des structures, je ne te conseille pas de t'en foutre, je ne te conseille pas d'être hyper vigilant sur l'argent, mais je ne te conseille pas de ne pas du tout surveiller tes comptes et de ne pas t'en préoccuper. Il faut que tu trouves le juste milieu, déjà celui qui te convient à toi, mais peut-être qu'avec ce qu'on vient d'évoquer là, tu vas peut-être te reconnaître. Moi, je sais que le chakra racine, c'est vraiment celui sur lequel je dois porter le plus d'attention. Pour tout le monde, je pense que c'est celui sur lequel il faut porter le plus d'attention, parce qu'il est vraiment à la base de tout. Donc en résumé, tout ce qui va te permettre de t'ancrer, méditation, yoga ou une autre pratique physique qui te correspond peut-être plus, mais déjà le fait de mettre le corps en mouvement, ça va faire circuler l'énergie. Toutes les activités qui vont te rapprocher de la terre, jardiner, marcher en nature, te rapprocher peut-être de tes animaux si tu as des animaux, que tu aimes bien les animaux, etc. Tous les exercices de visualisation, méditation, focus sur ce chakra. Et surtout, bien entendu, travailler sur ses peurs, sur ce sentiment d'insécurité, pour ne pas être tout le temps dépendante et esclave, entre guillemets, de ce sentiment d'insécurité. Voilà, j'espère que ce premier épisode t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça a pu peut-être te donner des clés de compréhension, peut-être que tu t'es reconnu dedans, et si c'est pas ton cas, peut-être que tu te reconnaîtras dans ce qui arrive. Donc le prochain épisode, sans surprise, concernera du coup le deuxième chakra, le chakra sacré. Et moi, je te retrouve donc jeudi prochain, jeudi dans 2 semaines, parce que jeudi prochain, pour ne rien te cacher, je suis opérée des dents, donc du coup, je sais pas trop au niveau de mon état d'énergie si je vais arriver à sortir l'épisode. Mais bon, c'est pas grave, au pire, il sortira la semaine d'après, je vais au plus vite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas, si c'est le cas, à me laisser par exemple 5 étoiles sur iTunes, parce que moi ça m'aide en fait à faire connaître le podcast. Et toi, ça te prend une demi-seconde pour cliquer. Et avant de te laisser, n'oublie pas que tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte. On est un peu moins de 300 entrepreneurs à s'entraider, à co-construire nos réussites, à partager, etc. Et la newsletter de Bien dans ta boîte, je l'envoie juste 2 fois par mois, sauf si vraiment il y a une annonce particulière, mais sinon 2 fois par mois, tous les 2 lundis à 9h du matin, avec les contenus Bien dans ta boîte et un article exclusif. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.